remercie de nous rejoindre. Vous allez participer et assister à la deuxième séquence de l'enquête sur le monde meilleur. Où est-ce qu'il se situe? Quels sont les chemins qui permettent de l'atteindre? Et quelle est donc sa nature, si tant est qu'il existe? Comme je le disais au cours de la précédente étape qui était il y a une heure, depuis 9 ans, le festival Utopial tourne un peu autour du pot. On n'a pas organisé encore de quête véritablement scientifique sur cette localisation, cette recherche de nature et donc d'itinéraire au bout du compte. Et on l'a lancé pour le 10e anniversaire d'Utopial. Première étape, c'était est-ce qu'il se situe en nous? Hélas, la réponse est, si nous en avons la pure conception, non, il ne se situe pas en nous, à moins que on ne puisse considérer comme un monde meilleur l'ensemble des ataraxies qu'on nous propose depuis l'Antiquité, c'est-à-dire finalement le silence du malheur en nous, soit qu'il soit épicurien, c'est-à-dire en modérant notre envie, nos envies de plaisir, soit qu'il soit stoïcien, c'est-à-dire en évaluant à leur juste mesure les choses, soit enfin qu'il soit pythonien, c'est-à-dire qu'on suspende notre jugement et qu'on décide de ne pas se mêler de tout ça pour ne pas souffrir. Alors, quels sont les chemins qui peuvent mener à ce monde meilleur? Il y a une piste qui nous est tendue, c'est celle du progrès. On nous dit que le progrès va améliorer nos vies, etc. Voyons dans quelle mesure et voyons si c'est une étape ou une série de marches vers un monde meilleur ou si au contraire il n'y a pas quelques embûches et peut-être du pire en même temps qu'il peut y avoir du meilleur. Et pour cela, nous nous sommes entourés de 4 spécialistes dont vous allez voir à quel point subtilement ils se complètent. Alors je vais vous les présenter non pas par ordre de préséance ou de notoriété, mais de droite à gauche pour vous. Patrick Giger, qui est le directeur de la Maison d'ailleurs, que vous connaissez, qui a été de longues années la cheville ouvrière de ce festival, et voilà, ô combien précieuse. Et dans son actualité, il y a la publication assez récente de Beau Lendemain. C'est un ouvrage sur l'histoire, la société et la politique dans la science-fiction. Alors moi, ce qui me ravit là-dedans, c'est que demain, des lambeaux demain. Cet ensemble de sonorités peut se retourner comme ça, des lambeaux demain. De Beau Lendemain, des lambeaux demain. Ensuite, Gérard Klein, qui est écrivain et éditeur. Lui, il dirige une collection qui s'appelle Ailleurs et Demain. Vous voyez qu'ils sont voisins. On commence à préciser les choses. Ailleurs et Demain, chez Robert Laffont, dont on dit que c'est la plus prestigieuse des collection de science-fiction en France. Vous êtes également, Gérard Klein, le directeur de la collection SF du livre de poche. Vous êtes auteur sous un pseudo et sous votre nom, Gilles d'Argire. Vous avez écrit des essais, des nouvelles, des romans et un petit joyau, une nouvelle qui s'intitule « Les virus ne parlent pas ». Et c'est un sacré joyau intellectuel, ça. On en parlera peut-être. Ensuite, Roland Lehoucq, qui, lui, est astrophysicien au Centre à l'énergie atomique. Il travaille sur la topologie cosmique. Alors, quand on cherche où est le monde meilleur, là, on a besoin d'un topologue du cosmos. Peut-être qu'il est là-dedans, à voir. Vous êtes agrégé de physique, ancien normalien supérieur de la rue d'Ulm, et vous faites des travaux dirigés à Polytechnique dans le cours de relativité restreinte. Il va nous expliquer aussi que la relativité est elle-même relative. Enfin bon, c'est intéressant de voir ça. Elle est restreinte, peut-être augmentée, on va voir. Vous publiez toujours des livres de vulgarisation scientifique, mais alors avec un parti pris qui est intéressant, qui consiste à partir d'ouvrages de fiction pour vous poser la question, est-ce que c'est possible ou pas? Le monde meilleur, est-ce que c'est possible ou pas? C'est bien entendu la question qui nous rassemble. Et vous êtes, pour non pas l'anecdote, mais pour la précision, chroniqueur à Bifrost. Votre dernier ouvrage, d'ailleurs, c'est SF, la science mène l'enquête. Nous y sommes. Enfin, Jean-Michel Besnier, vous êtes professeur de philosophie à Paris-Sorbonne. Vous êtes membre du Centre de recherche en épistémologie appliquée. Alors, c'est un bien gros mot, une très lourde locution, puisque c'est l'étude critique des sciences, de leur origine logique à leur valeur en passant par leur portée ou de leur portée en passant par leur valeur. Vous êtes également membre du comité d'éthique du CNRS et de l'INRA, ce qui montre dans quelle sphère vous évoluez et avec quelle attention et quel sérieux afin d'écouter vos propos. Vous êtes auteur de « Demain, les post-humains », ce qui n'est pas très rassurant. Vous nous faites miroiter des lendemains de l'humain. On va en parler et c'est peut-être ça, hélas, qui risque de constituer un miroitement de monde meilleur. Alors, on va faire les choses simplement. On va simplement partir de ce que vous avez en tête, vous. Et je vais vous demander ce qu'est le progrès, ce que c'est vraiment ce mouvement en avant, cette action d'avancer, mais en passant à un degré supérieur, en l'illustrant dans vos champs d'élections respectives. Alors, Patrick, comme vous êtes un vieux routier de ces tables rondes, dans votre champ qui est celui des institutions politiques, est-ce qu'on peut, et social, hein, puisque c'est ça les de beaux lendemains, est-ce qu'il y a là-dedans des choses que vous considérez comme des progrès ou des choses dont on a cru qu'elles seraient des progrès et qui s'avèrent comme des catastrophes, qu'il s'agisse de la réalité ou qu'il s'agisse de la fiction, parce que finalement, l'une et l'autre peuvent nous éclairer.
Je vois que progrès et catastrophe vont de conserve toujours et que la science-fiction a été là pour le rappeler dès le départ. Je crois aussi qu'il est important de rappeler peut-être, je pense que le philosophe à cette table nous en parlera, le progrès en fait est une notion non pas récente, mais le progrès comme étant lié au développement technologique est de ce côté relativement récent. Et là la science-fiction doit faire entre guillemets son mea culpa puisqu'elle a participé très largement à la diffusion de notions du progrès par la science et la technologie. Et l'utopie, en fait, progressiste, si on veut, elle apparaît, en tout cas, au XIXe siècle, avec des gens comme Edward Bellamy, qui a écrit cet ouvrage qui s'appelle « Looking Backwards », où un personnage de la fin du XIXe siècle se réveille un siècle plus tard, et grâce au progrès technologique et scientifique, eh bien, le monde a été transformé pour le mieux. Et ça lance vraiment un très grand mouvement en avant d'utopie, comme ça, par la technologie. Mais dès le départ, ça qui est intéressant aussi, la science-fiction s'attaque à cette notion de progrès technologique avec des gens comme H.G. Wells, bien sûr, mais pas seulement lui, même des gens comme Jules Verne, qui, dans un premier temps, peut-être, a cru que la notion de progrès technologique allait de pair, si on veut, avec la notion de progrès humain, et qui, vers la fin de sa vie, a remis cette notion en cause. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la science-fiction, même au début du XXe siècle, avec les pulps, par exemple, la science-fiction populaire des années 20, des années 30 ou des années 40, eh bien, le progrès technologique est toujours lié à une amélioration, si on veut, des conditions d'existence, que ce soit l'énergie atomique, que ce soit les voyages dans l'espace, etc. Il y a une vision très positive du développement, on dirait pas du programme, mais du développement technologique.
Et en fait, en même temps, la science-fiction nous apprend d'une façon récurrente, instante, très prégnante, que le verre est toujours dans le fruit.
Oui, c'est ça qui est un peu contradictoire avec la science-fiction, c'est qu'il y a ce double mouvement en fait où elle fait l'apologie comme ça du développement technologique comme moyen de résoudre les maux de la société, mais directement en parallèle, il y a une partie des auteurs et surtout évidemment à partir de la Deuxième Guerre mondiale avec le développement de l'énergie atomique à des fins meurtrières, mais pas seulement, aussi dans les années 60, je pense à des gens comme Ballard, par exemple, dont on parlera ici plus tard, qui vont renverser, si on veut, la vision du monde, et vont montrer que la technologie, en fait, elle n'est pas porteuse de progrès en tant que telle, et peut-être au contraire. Et je crois que c'est ça le questionnement qu'on peut avoir par rapport à un monde meilleur, c'est de se demander... Et je crois que les apôtres de la décroissance le font aujourd'hui dans le monde réel. Si on doit embrasser cette technologie à tout bout de champ, s'il ne faut pas avoir un regard critique sur les technologies qu'on peut avoir, ne serait-ce que l'iPhone par exemple ou l'internet mobile ou je ne sais quoi, l'adoption de toute technologie implique, si on veut, une transformation de notre environnement. Et je crois que la science-fiction l'a montré ici, enfin dans le festival Utopial depuis 10 ans. On ne peut pas simplement améliorer la condition humaine en amenant des nouvelles technologies et en espérant que le monde reste le même, simplement meilleur. Les nouvelles technologies vont transformer l'ensemble de la société de façon radicale.
Alors, au-delà des technologies, en deçà peut-être, je ne sais pas, revenons-en à de beaux lendemains. Au fond, restons sur le terrain de la société et de l'organisation de ces institutions, politiques notamment. Voilà aussi une grande source, un grand thème d'utopie. Hein. C'est même peut-être par là que ça commence, au fond. Est-ce qu'il y a là-dedans, finalement, les mêmes mécanismes ? C'est-à-dire le ver est dans le fruit, et de toute façon, c'est un totalitarisme qui chemine sous une espèce de promesse démocratique et un bel âge d'or ?
Alors, je vois que l'utopie est fondamentalement antidémocratique, justement, puisque le principe de base de l'utopie, pour qu'elle fonctionne, c'est que tout le monde doit l'adopter.
Tout le monde doit être heureux.
Donc, tout le monde doit être heureux. Déjà, vous n'avez pas le droit d'être déprimé ou malheureux. C'est vrai, c'est le dernier paragraphe du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où le personnage principal demande justement le droit à être malheureux et de vivre sa vie en tant qu'être indépendant. Et l'utopie... depuis le début, n'a jamais été un programme à appliquer tel quel. C'est, on va dire, un idéal. C'est quelque chose vers lequel il faut tendre, mais qu'il ne faut surtout pas, en fait, obtenir, puisque l'utopie de tous, c'est aussi la contre-utopie de chacun, en quelque sorte. Vous allez devoir vous conformer. C'est aussi une société qui est complètement sclérosée, l'utopie, évidemment, puisque le principe de base, une fois qu'ils sont adoptés, ne doit pas changer, alors qu'on sait bien que les êtres humains, eux, changent.
Alors, Gérard Klein, à votre tour maintenant, et j'ai presque envie d'aller directement sur les virus, là. Parce qu'au fond, on a un schéma qui est analogue. Le virus, si on vous entend bien dans cette nouvelle, il invente l'homme, en quelque sorte, ce qui, stricto sensu, est vrai. D'une certaine manière, il l'engendre. Et en même temps, il l'engendre pour mieux se reproduire. Et puis, ce support de sa reproduction cherche, au contraire, à le détruire. Donc, le ver est dans le fruit, là aussi.
Oui, enfin, je pense qu'il faut ramener cette nouvelle à l'époque à laquelle elle a été écrite. Elle a été publiée initialement en 1966, donc il y a presque prescription.
Il y a prescription, mais en même temps, dites-moi, quel joyau.
Elle reste d'une immense qualité.
Absolument.
Je ne vous contredirai pas sur ce point.
Bon.
Mais j'y reviendrai peut-être ensuite, mais ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que la plus grande partie de mon activité, que vous n'avez pas citée tout à l'heure, a été une activité d'économiste
oui.
et de prospectiviste pendant très longues années. Et donc, je me suis penché sur le présent, le passé et l'avenir d'un certain nombre de sociétés, pas uniquement les sociétés industrialisées. Alors, relativement à notre propos, je voudrais insister sur ce point, qu'après un début de XXe siècle assez catastrophique, au travers de deux guerres mondiales à bien des égards parfaitement stupides, le monde industrialisé, occidentalisé et au-delà, pour l'appeler par son nom, au cours des 65 années qui ont suivi, a connu un progrès colossal, un développement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, très largement grâce aux sciences et aux techniques. Et les gens qui, comme moi, se souviennent des années 50, par exemple, où j'étais, disons, un jeune adolescent, savent qu'ils vivaient dans un monde qui était encore relativement pauvre, où vous tous qui êtes ici ne seriez pas là, ce bâtiment et son équivalent n'existeraient pas, vous ne seriez pas vêtus, nourris et entretenus de façon générale, en particulier médicale, comme vous l'êtes aujourd'hui, et c'est pour le mieux. Donc, sur les 6 milliards d'êtres humains que nous sommes à peu près sur cette planète, environ 2 milliards vivent infiniment, il faut prendre le terme métaphoriquement, mais considérablement mieux et plus longtemps que jamais dans l'histoire de l'humanité. Une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir combien il y aura de centenaires en 2050, avec tout ce que ça implique. Bon, et ce n'est pas une poignée de super riches ou de gens qui ont profité de l'ensemble de ces progrès, largement dus aux sciences et aux techniques, ce sont 2 milliards d'habitants. 2 autres milliards ont vu leurs conditions pendant les mêmes 65 années, et j'ai travaillé là-dessus, s'améliorer de façon très sensible. 2 autres milliards n'ont pas bougé. Enfin, il faut se rendre compte, en un peu plus d'un demi-siècle, que le travail des siècles précédents a produit des effets humains considérables, colossaux, sur tous les plans. Qu'il y ait des aspects négatifs, et que
oui,
ces aspects soient fréquemment illustrés par la science-fiction, d'abord parce qu'une bonne histoire est une histoire qui finit mal. Un des problèmes du livre de Bellamy que citait Giger, c'est que tout est merveilleux et tout se passe très bien, et ce bouquin dégage un ennui profond. Bon. Mais l'essentiel de mon discours à ce stade, c'est qu'il y a eu un progrès scientifique. Je n'ai pas dit qu'il y avait eu un progrès moral, humain très considérable. Il y a eu un progrès scientifique considérable, et ce progrès scientifique considérable, s'est encore accéléré au cours des 20 ou 30 dernières années, a porté des fruits extraordinaires.
Alors, il faut qu'on apprécie le progrès dans l'ensemble d'une façon relative et très précisément. Vous parlez de progrès scientifique indéniable, de progrès technique, d'augmentation corrélée du nombre d'individus en mesure de vivre, de se nourrir, de se loger, etc. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu toute une série de contreparties qui sont menaçantes, à défaut d'être vraiment négatives, mais qui menacent ? Est-ce que, par exemple, ce fameux réchauffement de la planète dont nous parlions il y a 2 ans ici n'est pas l'un des corollaires négatifs de ce progrès dont vous parlez ?
Bon, ce réchauffement de la planète est indéniablement d'origine anthropique. Bon. La question est de savoir quelle réponse nous pourrons lui donner. Les réponses ne peuvent être que très complexes. Elles relèvent en partie de mes disciplines, l'économie et la sociologie, en partie aussi de solutions techniques. Mais même dans ce domaine, ce qu'il est très important de voir, c'est que précisément grâce à la science, on a su mesurer le phénomène, on sait faire des projections, qui valent ce qu'elles valent. On est par conséquent à même de prévenir les humains du présent et ceux de l'avenir de ce qu'il convient de faire pour éviter une catastrophe. J'ai écrit plusieurs textes là-dessus auxquels je ne vous renverrai pas, mais c'est bien la connaissance scientifique qui a permis de mesurer la dimension du problème. Je signale en passant que dès le début du XXe siècle, ou à l'extrême fin du XIXe siècle, un astronome célèbre, celui qui a introduit l'idée de panspermie, son nom m'échappe là, avait déjà dit il y aura un problème avec le CO2. Il y aura un problème de réchauffement avec le CO2. Son nom reviendra peut-être tout à l'heure.
Et vos voisins ont pas l'air de vouloir vous aider. L'auteur de la panspermie, messieurs. Bon, cherchons, à moins qu'il y ait une réponse dans la salle, on verra. Mais peu importe, au fond.
Ce n'est pas le jeu des 1000 euros.
Non, tout à fait. Alors, simplement, Gérard Klein, on a entendu Patrick Guiguer dire des progrès scientifiques, il y en a, indéniablement. Progrès humain, il semblait en douter. Vous-même ?
Non, mais, si vous voulez, le problème, qu'est-ce que c'est que le progrès humain ?
Passage à un stade supérieur, à un état supérieur. Petite définition tendue.
Je ne sais pas très bien, c'est peut-être notre ami qui parlera du post-humain introduira le passage à un stade supérieur. Bon, j'en ai souvent, sous cette question-là, débattu avec mon ami Gilbert Autois, que vous connaissez probablement, qui est un philosophe belge, et précisément, j'ai fait des colloques avec lui sur ce sujet, enfin, qui se penche précisément sur les questions des transformations de l'humain. Ultérieur, autre passage, supérieur, bon. je n'en sais fichtrement rien.
D'accord.
Bon, fondamentalement, un des problèmes qui se trouve posé, mais pas depuis ce siècle, depuis très longtemps, c'est que l'être humain a au bas mot 1 million à 5 millions d'années, qu'il a toutes sortes de programmes, en partie génétiques, en partie culturels, qui sont en lui et qui collent plus ou moins bien avec les moyens qui lui sont donnés par la connaissance, et par les sciences et par les techniques. Là, il y a un conflit.
Bien. Donc, au moins, il y a un conflit. Alors, Roland Lehoucq, le scientifique, cette fois, est sur le terrain des sciences. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, est indéniablement à classer dans la rubrique des progrès, au sens où je l'entends de façon primaire, certes, mais c'est un peu ce que je voudrais que nous fassions ensemble, pour commencer du moins. Et qu'est-ce qui semblerait être considéré comme un progrès humain qu'en fait il faudrait considérer comme une espèce de catastrophe ambulante et larvée, alors, de votre point de vue ?
Du côté des sciences, alors moi qui suis plutôt dans les sciences fondamentales, les progrès sont incontestables puisque l'élargissement du champ des connaissances en sciences est considérable depuis le début du XXe siècle et depuis encore bien plus longtemps derrière, l'écart est encore plus gigantesque. On a les moyens maintenant de comprendre beaucoup plus de choses que ce qu'on comprenait des phénomènes, mettons, il y a un siècle. Donc si on mesure le progrès à l'aune de la quantité de phénomènes dont on est capable de rendre compte et à l'aune du champ que les sciences modernes sont capables de, sur laquelle les sciences modernes sont capables de mener des investigations pertinentes, il y a un progrès incontestable. Il y a bien plus de choses que l'on maîtrise, que l'on comprend, sur lesquelles on peut mener des investigations maintenant, que, mettons, il y a un siècle et même encore il y a 20 ans. Donc ça, le progrès de ce point de vue-là est incontestable. Alors je parle pour les sciences fondamentales, au sens des connaissances, des connaissances brutes et surtout des connaissances qui peuvent être pour certaines, si je prends mon cas d'astrophysicien, pour l'instant essentiellement décorrélées de toute conséquence, de tout développement technique. Même si pour acquérir ces connaissances, il a fallu mettre au point des outils, des télescopes plus grands, être capable de voir dans des longueurs d'onde accessibles à nos sens, inaccessibles à nos sens, de voir l'infrarouge, de voir les rayons X, donc de mettre au point des objets techniques qui n'étaient pas disponibles il y a 50 ans et qui donc rendaient les observations ou l'accès à ces connaissances, l'accès direct par l'expérimentation de l'observation impossible. Donc il faut voir que ce progrès dans les connaissances fondamentales, il n'est pas complètement décorrélé d'un progrès technique qui lui-même dépend d'un progrès dans les connaissances fondamentales. Par exemple, faire des détecteurs infrarouges nécessite d'être capable de faire de l'électronique spéciale, de faire des objets fondés par exemple sur la mécanique quantique qui elle-même a été développée au début du XXe siècle. Bref, il y a un mouvement circulaire où les progrès fondamentaux finissent par nourrir des développements techniques
qui eux-mêmes
nourrissent
peuvent être
des nouveaux progrès fondamentaux. Donc il y a un cycle, ce n'est pas la connaissance pure d'un côté.
Et dont le champ peut s'élargir, c'est-à-dire qu'on peut sortir du champ initial.
Exactement. Alors, effectivement, si on reste purement dans le champ des sciences, on a cette circularité, entre connaissances fondamentales, connaissances expérimentales, avec une poule et un œuf qui tournent en permanence l'un derrière l'autre sans savoir qui a commencé ou qui finira.
L'essentiel étant que ça tourne dans la circonstance, pour augmenter les connaissances.
Alors, le temps que ça tourne, et quand on regarde seulement du point de vue des connaissances fondamentales, les progrès sont incontestables.
Alors, passons maintenant aux sciences, appliquées, du coup, à ce qui pourrait être considéré comme une amélioration des conditions de vie, des perspectives de vie, bref, d'un point de vue humain, comme un progrès.
Alors,
un stade supérieur à
là, atteint. C'est l'utilisation, de mon point de vue de scientifique, je me placerai dans le cadre de l'usage pour les hommes des développements techniques qui dépendent de l'évolution, des progrès, des connaissances scientifiques. Alors, là, il y a évidemment tout, il y a à boire et à manger, il y a des progrès, si on prend la médecine par exemple, la découverte de la pénicilline et puis de tous les antibiotiques derrière, ça c'est un progrès incontestable. En même temps, on voit que, et vous disiez tout à l'heure le verre est dans le fruit, l'usage immodéré, systématique et peut-être pas toujours réfléchi des antibiotiques produit des souches de bactéries résistantes à ces mêmes antibiotiques, qui fait qu'il est absolument nécessaire d'en développer d'autres et que même la course, en tout cas, il y a, par exemple, dans les cas des staphylocoques dorés, pour ce que j'en sais, il y a une souche de staphylocoques dorés qui résiste à tous les antibiotiques sauf un seul. Donc autrement dit, il vaut mieux pas attraper celle-là. Ou alors, il faut être dans un hôpital qui peut vous fournir le bon antibiotique. Donc, il y a toujours l'idée que, volontairement ou pas, les conséquences du progrès technique, volontairement, c'est-à-dire que, involontairement, c'est le cas des résistances bactériennes, par exemple, ou volontairement, tous les progrès de la mécanique quantique du début du XXe siècle qui ont abouti au développement de la physique nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a explicitement servi à faire des bombes, quand même. Et donc, dans un but peu regardant vis-à-vis de la survie humaine de qui la prenait sur la tête. Donc, il y a eu des conséquences, qui sont parfois volontaires, parfois involontaire, mais mesuré ensuite, comme le réchauffement climatique, l'idée que l'homme puisse avoir un impact sur la nature, un impact énorme même sur la nature, n'a pu être mesuré que par les progrès de la science, des observations de la Terre depuis l'espace, par exemple. Si on ne peut pas observer la Terre depuis l'espace, on a beaucoup plus de mal à mesurer efficacement, proprement, les impacts de l'homme sur la biosphère. Donc les progrès à la fois engendrent des choses, volontairement ou pas, qui sont, disons, fâcheuses pour l'humanité, et aussi des outils pour mesurer ces conséquences, donc pour se rendre compte qu'il y a ces conséquences, avant peut-être la catastrophe ultime ou le problème ultime, et en même temps, peut-être des outils, pas systématiquement des outils pour y répondre, mais pas systématiquement, parce que là, il y a l'idée aussi, alors ça vient peut-être du deuxième siècle, que le progrès technique va résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, dès qu'on a une maladie nouvelle, on aura le médicament, on le trouvera bien. On a le réchauffement climatique,
on
trouvera la machine ou le machin qui va résoudre le problème. Donc, faisons business as usual, comme on dit, continuons comme avant, et puis, de toute façon, on va bien trouver la réponse. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marché, mais rien ne prouve que ça continuera à marcher. C'est-à-dire, c'est un acte de foi de dire, la science résout les problèmes, le progrès scientifique résoudra les problèmes qui se posent. Oui. Ça, c'est un acte de foi, il n'y a pas de preuve de ça.
brièvement une remarque, mais prenez le micro pour...
Une note en bas de page, enfin deux petites notes en bas de page. La première, c'est que les liens, comme tu le disais, entre sciences fondamentales et applications sont parfois très étroits. Prenons le cas de la spintronique. En très peu d'années, ça a permis de multiplier par 10 la capacité des disques durs. Or, ça a complètement bouleversé le domaine. Bon, le deuxième domaine qui est très intéressant, c'est celui de la résistance aux antibiotiques. La sonnette d'alarme a été tirée il y a très longtemps, presque au moment de l'invention des antibiotiques. Le problème, et c'est un problème de socio-économique tout à fait classique, le problème, c'est que les médecins généralistes en particulier ont distribué des antibiotiques larga manu, y compris pour des choses bénignes ou des maladies virales sur lesquelles ça n'avait aucune espèce d'effet. Donc si on avait écouté, c'est le problème, le type de problème que le prospectiviste voit poser régulièrement, si on avait écouté dès les années 50, disons, ceux qui disaient, attention, il faut utiliser ça uniquement dans les cas où c'est absolument nécessaire, sans ça on se prépare des lendemains qui déchantent. Si les médecins en particulier, qui le font maintenant mais trop tardivement, avaient suivi ces conseils, on n'aurait pas ces problèmes de résistance. Je ferme.
Merci pour vos notules. Jean-Michel Beignet, vous êtes l'homme qu'il nous faut puisque vous êtes épistémologue et que vous êtes là pour finalement dire les origines logiques d'une science, sa valeur, sa portée. Alors, de ce point de vue d'épistémologue, quels sont les progrès et quels sont les faux amis en matière de progrès, ceux qui engendrent ou qui sont susceptibles d'engendrer au moins des confitures?
Bien, mais cette idée de progrès qu'on prospecte là, il faut, je pense, souligner deux aspects.
Parlez bien dans le micro.
Le progrès connote toujours l'idée d'une continuité. Il y a progrès parce qu'il y a continuité. Et la deuxième chose qui est présente dans l'idée de progrès, lorsque, comme vous l'avez rappelé, elle apparaît au sortir de la Renaissance européenne essentiellement, c'est le couplage entre progrès moral et progrès scientifique. Si vous prenez le grand personnage de la Révolution française qui est Condorcet, au lendemain de la Révolution française, il écrit un tableau pour décrire les progrès du genre humain, il se sert volontiers de la métaphore de la lumière en disant, on va aller précisément toujours vers plus de lumière, plus on en saura et meilleur on sera. C'est cette idée de progrès qui est fondamentalement en crise depuis le début du XXe siècle, à vrai dire, puisqu'on a découvert à un moment donné, avec la guerre 14 pour l'essentiel, que la science pouvait très bien se mettre au service du pire, et que par conséquent, un progrès scientifique et technique ne signifie pas nécessairement un progrès moral.
Alors, c'est déjà dit par un auteur relativement ancien, pour moi c'est Rabelais, mais peut-être est-ce que je me trompe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça le dit déjà.
C'était simplement l'appel à la vigilance. Effectivement, la science, elle peut ne pas être bonne, pour peu que, justement, nous la déconnections de la réflexion sur les finalités, sur la grande question que se posent les hommes depuis toujours, comment bien vivre ? Comment bien vivre ? Alors aujourd'hui, on se pose la question, comment bien vivre avec nos progrès scientifiques et techniques ? Parce que, de fait, on s'est rendu compte que le progrès des connaissances n'était pas continu, à vrai dire, non pas qu'il soit soumis à des régressions, mais plus nous projetons de lumière sur des phénomènes, et plus nous aurons au long cette lumière d'ombre. L'ombre, finalement, elle ne se trouve pas dissipée par la lumière que nous projetons sur les phénomènes, mais elle est toujours présente. Si vous prenez l'exemple des nanotechnologies, par exemple, les nanotechnologies qui peuvent apparaître comme une découverte considérable, et là, Roland, je te donne tout à fait acte que les nanotechnologies, c'est vraiment le domaine où on a une coïncidence de la science et de la technologie. C'est la découverte du microscope à effet tunnel qui a permis précisément d'agir au niveau de la matière. Mais ce qu'on découvre aussi, et c'est ça qui fait débat aujourd'hui, c'est que les nanotechnologies ne correspondent pas à l'idéal de maîtrise qu'on associait avec l'idée de progrès. le progrès, c'était toujours plus de maîtrise sur la nature. Or là, nous avons, si je puis dire, levé un lièvre avec les nanotechnologies et nous découvrons que peut-être qu'au fond, nous sommes confrontés à un principe d'immaîtrise qui va poser de fait tous les problèmes que doivent poser les sciences et les techniques, à savoir comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va vivre avec cela.
Alors c'est une idée ancienne, ça, que finalement les scientifiques se comportent comme des apprentis sorciers. La formule n'est pas tout à fait nouvelle, hein, loin s'en faut. Au fond, vous disiez, la question est celle de la maîtrise, mais comment le régler ? La notion même de comité d'éthique, ce concept-là, est relativement récent et sa mise en place, en tous les cas, est récente. Et on a érigé en principe constitutionnel le principe dit de précaution. Est-ce que c'est pour autant ça une façon de marcher, de faire un progrès, pardonnez-moi encore de jouer avec ce mot, mais dans la direction d'une maîtrise des effets de la science et de la technique ?
Il faut bien voir que si on parle beaucoup d'éthique aujourd'hui, c'est sur fond d'une certaine déception à l'égard du savoir scientifique et technique. C'est parce qu'on est dans une crise de l'expertise, dans une crise de la confiance dans les scientifiques, qu'on fait appel à l'éthique comme une solution, une boîte à solutions. Ça n'est pas de cela qu'il s'agit, mais d'abord et avant tout parce qu'il convient de mettre en perspective nos progrès, de poser réellement la question des critères qui vont permettre de prendre les bonnes décisions. Et cela, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans le ciel, il n'y a pas de réponse dans les traditions, il n'y a pas de réponse dans la nature. Il faut que nous inventions.
Il faut travailler, réfléchir, inventer.
Inventer ces solutions.
Qu'est-ce qu'on a déjà inventé qui vous paraît aller dans le bon sens sur ce terrain ? Est-ce qu'il y a des méthodes, par exemple ? Est-ce qu'il y a des critères déjà qui sont énoncés ?
On pourrait dire que dans quantité de domaines, c'est vrai, pour le public, l'essentiel qu'on a inventé, c'est peut-être l'idée de moratoire, hein, et c'est pas forcément bon, hein. L'idée de moratoire, c'est interruption de la recherche.
Interruption du continuum dont vous parliez.
Exactement. Les cellules souches ou le clonage qui sont dans la dynamique du progrès en principe, eh bien, on a dit, en tout cas en France et largement en Europe, halte là. On doit d'abord réfléchir.
C'est réversible, on l'avait dit aux États-Unis, et puis il y a une décision inverse qui est en train de...
On sait très bien que le clonage, il y aura des clones parmi nous, hein, c'est évident. Moratoire, on se donne le temps de la réflexion, on se donne le temps de d'évaluer ce que systémiquement l'environnement humain naturel va connaître comme perturbation avec la présence de ces éléments discutables. Bon, donc il n'y a rien de bouleversant, hein, à vrai dire, hein, sauf que il y a une prise de conscience de plus en plus étendue dans la population même mondiale qui fait que le progrès n'est plus une chose évidente, le progrès scientifique n'est plus une valeur intrinsèque. On commence à se dire qu'on peut se poser la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à cette fuite en avant, hein, qui a amélioré, je vous l'accorde, bien sûr, nos conditions de vie. Et c'est vrai qu'on peut dire que l'un des progrès, la maladie d'Alzheimer qui fait peur à beaucoup de gens, c'est le résultat d'un progrès. Hein. Il est évident que s'il y a des Alzheimer de plus en plus nombreux, c'est parce qu'on a amélioré la longévité. Hein. On pourrait le dire autant du cancer. Enfin, les cancers nombreux sont le signe, sont le juste signe des progrès que nous avons faits dans le domaine de la médecine.
Les cancers guéris, en tous les cas.
Non, mais même à la limite, non. Je dirais que nous connaissons des épisodes cancéreux parce que, justement, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre, tout simplement, et à vivre longtemps.
Alors, je vais vous entraîner sur un terrain un peu décalé. Depuis que je vous écoute, et à commencer par Patrick Guiguerre, avec sa notion de verre qui est dans le fruit, je me dis qu'on est sur un schéma mythique, au fond. C'est celle du paradis. Ce progrès, ça nous permettrait d'aller vers le monde meilleur, donc quelque chose de paradisiaque. Et en même temps, il y a toujours une espèce de quelque chose qui ressemble au péché originel. C'est-à-dire il y a une faute quelque part qui fait que l'on chute, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous frappe, ça, ou pas ? Comment vous réagissez à ça ? On refait un tour de table.
Je ne suis pas sûr que ce soit de cette façon-là. Enfin, je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas, genre, il y a un but incroyable à atteindre, magnifique, et quelque chose nous fait déraper. Je pense qu'au contraire, en quelque sorte, au niveau du progrès, que ce soit technologique ou général, en fait, on l'obtient, en quelque sorte, on arrive à la fois dans le meilleur des mondes et dans le pire des mondes, forcément.
Oui. Alors, c'est pas sous cet angle-là que je voulais le dire. Je voulais simplement suggérer la chose suivante, c'est que nous inventons dans les mythes, dans nos mythes, les réponses aux questions que nous allons nous poser. Et finalement, nous écrivons ce qui va se produire d'une certaine manière. Et là, il est dit quelque part, nous allons rêver quelque chose de magnifique, mais attention à ce que nous faisons, parce qu'il y a la chute derrière. C'est-à-dire ce mythe de la chute, bon voilà, c'est contenu parce que ça. Qu'est-ce que ça inspire aux philosophes ?
Chute, hein. Nous sommes les produits de la chute, nous sommes les produits d'une rupture. Hein. Et l'histoire du progrès, par conséquent, c'est la tentative pour récupérer en quelque sorte ce que nous avons perdu. Hein. L'histoire en Occident, elle est toujours eschatologique, c'est-à-dire elle tend vers une fin qui devrait nous permettre de récupérer le point de départ.
Vraiment, le point de départ, c'est l'âge d'or ?
Ben, le point de départ, c'est, vous parliez d'Ataraxie tout à l'heure, c'est ce degré zéro où il n'y a pas d'histoire, où nous vivons un éternel présent, où nous sommes exempts de conflits, de souffrances, etc. C'est la mort, d'une certaine manière. C'est la mort, le point de départ. Hein, nous sommes effectivement dans un éternel présent, dans une espèce de suspens. Et il faut bien dire que bon nombre d'utopies n'ont cessé de décrire, oui, justement cet idéal d'une stabilisation de l'humanité où il n'y a plus de temps. Hein, où nous avons aboli le temps.
Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'âge d'or, puisque c'est ça dont nous parlons en ce moment, c'est qu'il est évoqué dès l'Antiquité dans une série d'écrits et qu'il y a une espèce de rupture là aussi. Parce que dans l'Antiquité, c'est quelque chose d'avant. C'est une nostalgie profonde de ce que nous étions lorsque le ciel ne nous était pas encore tombé sur la tête, lorsque la connaissance n'avait pas encore été consommée, pour reprendre toute une série de figures qui expriment la même chose. Et après le Moyen-Âge, c'est une promesse, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous pouvons atteindre. Alors, qu'est-ce qui explique ce mouvement de bascule, selon vous ?
Parce que c'est la même chose. C'est cet effet.
Alors,
En résumant, excusez-moi si je vous ai...
Mais allez-y.
Non, mais en résumant énormément, ce qu'on appelle généralement l'utopie, j'ai proposé de le rebaptiser eunomie, c'est-à-dire la recherche de la bonne loi, parce que l'utopie fait partie, est un moment de cette recherche. Alors effectivement, la première période, ce que vous appelez l'âge d'or, c'est ce que j'aurais tendance dans l'Antiquité à appeler les Atlantides. La merveille est dans le passé. Bon. Ensuite, il y a une période qui est beaucoup moins bien connue, mais qui est très importante, qui est l'eunomie religieuse, hein, qui commence avec la cité de Dieu et qui va aller à peu près jusqu'à la Renaissance. Avec la Renaissance apparaît, à proprement parler, l'utopie, c'est-à-dire c'est le moment des grandes découvertes. On découvre le monde, son étendue et sa variété. Et Thomas More imagine, en sachant très bien qu'il n'en est rien, que quelque part, il y a une société qui est loin d'être idéale, mais qui correspond à ce qu'il souhaiterait que sa propre société fasse et devienne. Bon. Et puis après, et très sensiblement après, ça se déplace vers l'avenir. Et ça, on peut le situer de façon relativement précise avec l'invention littéraire de l'anticipation, probablement à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle. Cette invention littéraire de l'anticipation, sur laquelle Pierre Versin s'est penché, c'est quelque chose de très important. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a pu se dire, bon, pas l'âge d'or, j'ai horreur de cette expression relativement à ça, mais en tout cas, un monde différent et un monde meilleur peut se trouver dans l'avenir à condition qu'on fasse le travail. Donc il y a ces quatre étapes, les Atlantides, les utopies religieuses que je passe, Joachim de Flore, enfin, etc. rapidement, les utopies au sens de Thomas More, et puis ensuite le grand projet pour l'avenir, et qui a d'ailleurs donné naissance à quelques énormités et atrocités absolument épouvantables. Je pense que depuis quelques dizaines d'années, nous sommes entrés dans une cinquième étape qui est celle des projets partiels. C'est-à-dire on n'a plus le grand récit avec l'arrivée A, mais l'idée que dans tel ou tel domaine, on peut rechercher,
plus proche
essayer
de,
d'améliorer,
plus proche du soi et de l'humain.
Et essayer D'accord. d'améliorer les choses. Et je pense qu'en soi, c'est un grand progrès.
Ok, alors, avant de cette discussion assez longue, je vous en prie.
Oui, oui. Non, ce que vous décrivez, au fond, c'est la manière dont l'utopie est progressivement entrée dans le temps.
Voilà.
Hein, parce qu'elle a longtemps été l'autre du temps. Hein, et l'autre du temps vers lequel on regardait précisément pour essayer d'améliorer notre condition temporelle. Et longtemps, l'utopie, elle a été par principe irréalisable, mais c'était un idéal régulateur. L'idéal régulateur qui nous permettait éventuellement de prescrire à notre temps les modalités de son changement.
Au fond, une référence éthique.
Voilà. Et puis, ben, vous l'avez dit, on pourrait évoquer le saint-simonisme au XIXe siècle. Oui. L'utopie est entrée dans le temps et c'est là où c'est devenu catastrophique. Effectivement, hein, vous le disiez bien au départ, hein, l'utopie qu'on veut rendre tangible, qu'on veut réaliser, elle devient totalitaire. Mais c'est pour ça que je crois que vivre la crise du progrès, puisque c'est le thème de notre table ronde, d'une certaine façon, vivre la crise du progrès aujourd'hui, ne nous dispense pas de rêver encore d'un monde meilleur.
Évidemment.
C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'au fond, si on parle de monde meilleur, c'est qu'on pense en termes de rupture et plus en termes de progrès. Hein, et ça, bon, depuis les années 60, depuis les mouvements de la Beat Generation, William Burroughs et autres, hein, on pensait la rupture. Hein, on ne voulait pas réformer la société, on ne voulait pas suivre les mouvements révolutionnaires qui nous promettaient tous qu'on raserait gratis demain. Hein, mais c'était la rupture. Bon, quand j'ai travaillé un petit peu sur les idéologies post-humaines, je me suis rendu compte avec grande surprise que l'un des promoteurs des idéologies post-humaines, c'est Timothy Leary. Timothy Leary, le promoteur du LSD dans les années 60, hein, qui invitait à transformer la perception grâce au LSD, parce que c'était là qu'était le bonheur. Ben, Timothy Leary, il a découvert à un moment donné que les technologies pouvaient nous donner justement cette possibilité de rompre avec le présent, avec l'ici maintenant, et par conséquent, nous assurer l'entrée dans un monde meilleur.
Alors, votre réflexion à vous.
En entendant oui, mes collègues parler, il n'en marque quoi comme une notule, voilà, comme disait Gérard tout à l'heure. Peut-être la notion de progrès, on devrait peut-être toujours mettre en sous-entendu en Occident, parce qu'elle a, à mon sens, elle est forgée par l'idée qu'il y a un temps linéaire, et qu'il y a une autre possibilité pour le temps, c'est qu'il se reboucle sur lui-même, et qu'il y a des civilisations pour lesquelles le temps est cyclique. Et donc là, vous ne risquez pas de faire des progrès, puisque vous revenez sur vos pas temporellement.
La révolution
est copernicienne. Donc voilà, donc l'idée de progrès, elle est aussi liée finalement, et en physique, c'est très important, la perception. Le temps, qu'est-ce que c'est en physique? On ne va pas commencer,
oh là là.
Si on en a pour des heures, et même ailleurs qu'en physique, on en a aussi pour des heures. Mais voilà, donc c'est aussi lié de manière, à mon sens, très intime, avec la façon qu'on a d'organiser le temps, de dire le temps, c'est soit une droite infinie, au debout. Soit c'est un truc qui se reboucle sur lui-même, c'est un cercle, et la notion de progrès n'a pas le même statut dans les deux cas. Quoi, voilà. Donc on est toujours dans une vision, disons, occidentale des choses. Mais enfin, on est en Occident.
Alors,
aussi, après tout, il n'y a pas de raison.
Moi, je retiens, j'ai une question à vous poser, parce que Jean-Michel Blénier nous dit, finalement, il ne faut pas qu'on cesse de rêver à un meilleur, à un monde meilleur. Mais il dit, c'est sous la condition, cette fois, non plus d'un continuum, mais d'une rupture. Est-ce que, scientifiquement, de votre point de vue, il peut y avoir des ruptures scientifiques, enfin, ou scientifiques ou technologiques. Alors,
oui,
et sur quel terrain? Mais bien entendu.
Oui.
Mais bon.
Il y en a tout le temps.
Quel terrain vous les voyez venir ou vous les souhaitez?
Alors oui, des ruptures scientifiques, il y en a régulièrement. Enfin, la façon qu'on a les représentations du monde qui sont forgées par la science valent un certain temps et puis sont à un moment donné en porte-à-faux vis-à-vis d'observations, d'expérimentations qui font que ça change. Alors ça peut changer par petit à petit, parce qu'on a l'impression qu'en modifiant les représentations précédentes, on va quand même y arriver. Et puis il y a un moment, les modifications sont
Alors,
plus suffisantes.
On peut en citer énormément, à commencer par Mars, ses canaux, enfin bon, toute l'histoire de la vision de Mars.
Ça, par exemple, ça, la façon dont on présente Mars.
C'est banal.
Mais Copernic, voilà, des exemples. Là, voilà, il y aurait les ruptures, disons, les plus à mon sens, les plus importantes.
C'est enfin, qui nous ont le plus impacté.
C'est des ruptures fondamentales sur nos représentations profondes du monde. Donc, voilà. Est-ce que la Terre est au centre du monde ou non? Est-ce que le Soleil est au centre du monde ou non? Ça s'est reposé en 1920 avec le grand débat entre Shapley et Curtis qui disaient les étoiles. Shapley qui disait les étoiles, ça s'étend jusqu'à un certain endroit et après, il n'y a plus rien, c'est vide. Et Curtis qui dit non, il y a des univers-îles, il y a des groupes d'étoiles répartis dans l'univers dont la Voie lactée est un exemple et il y en a d'autres ailleurs. Et les nébuleuses que nous voyons, ce ne sont pas des objets de notre groupe d'étoiles, ce sont des objets qui sont eux-mêmes des groupes d'étoiles à des distances considérables. Alors, le simple fait de mesurer la distance des objets-là, qu'a fait Edwin Hubble dans les années 25-30, ça ouvre du coup ça creuse un fossé. C'est pas, il y a un groupe d'étoiles assez grand où nous sommes et puis rien. Il y a des groupes d'étoiles jusqu'à, on ne sait pas où, mais il y a des groupes d'étoiles lointains et donc des possibles. Alors, ça veut dire des terres possibles, des soleils avec des terres autour, des humains, enfin des extraterrestres.
Oui, des pensées.
Des pensées, des intelligences autour de ça peut-être. Donc, des questions qui étaient déjà pensées, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir d'autres intelligences, des sélénites ou des gens qui habitent sur Mars, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, ça le repousse à des distances encore bien plus considérables dans l'espace et dans le temps. Donc il y a des ruptures. Et puis alors en physique, évidemment, la mécanique quantique, les représentations de l'espace et du temps, relativité restreinte, etc. générale. Donc un changement complet de paradigme de nos représentations de l'espace et du temps. Mécanique quantique sur la façon dont la matière se structure. Enfin, alors en biologie, j'en parle même pas. Il y en a des wagons partout. Enfin, ça n'arrête pas. Ces changements de représentation, ça n'arrête pas. Ce n'est pas tous les jours, mais ça n'arrête pas à l'échelle du siècle.
Force est de constater que ça devient vertigineux, mais que pour autant, ça ne nous calme pas trop.
Non, bah, de toute façon,
on est toujours un peu effervescent et un peu mauvais sur toute une série de
plans. Il y a toujours une idée qu'on va pouvoir mieux comprendre les choses. Et puis finalement, il y a aussi, pour les retombées, c'est que finalement, quand quelque chose est possible, il sera fait, quoi, finalement. Et c'est pas parce qu'on va... On peut juste... En fait, peut-être je me trompe, mais j'ai une intuition que je livre comme ça, et puis vous verrez si ça vous convient ou pas. C'est que finalement, le problème, il est dans le fait qu'on n'arrive pas toujours à s'adapter au développement technique, au progrès scientifique, disons.
Nous.
C'est-à-dire nous, humains. S'ils sont trop rapides, autrement dit, si le temps, la vitesse, donc le temps caractéristique qui se passe entre deux progrès foudroyants techniques qui changent nos sociétés, entre les avions, après il y a eu le téléphone portable, bon, il s'est passé quelques années, ces deux progrès-là ont changé les avions, on peut être partout. Maintenant, le téléphone portable, on peut être partout sans bouger, enfin, le téléphone portable ou les réseaux. Et donc, micro-ordinateur. Donc, ces progrès-là arrivent à une vitesse si grande que on apprend à marcher, enfin on apprend à s'en servir au rythme où ça arrive. Et que l'intérêt, à mon sens, de ce comité d'éthique, de ces moratoires, c'est calmer le jeu. Ça veut dire ok, on sait faire ça, on a l'impression qu'on sait le faire, on laisse tomber pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, et ça laisse le temps de stratifier l'idée, de s'habituer à l'idée, et éventuellement de trouver des usages pertinents de cette idée-là, plutôt que des usages où par essai et erreur, on trouvera peut-être un usage pertinent, mais si on rate le coup... On a en main des outils techniques qui sont si puissants que si on se trompe, on ne pourra pas corriger le tir. On en prendra plein la gueule tout de suite.
Alors,
il n'y aura pas la possibilité de corriger l'erreur qu'on a faite. Donc, alors, c'est ça la difficulté, c'est le rythme auquel arrivent ces choses-là.
Oui, mais pourtant, c'est une continuité, c'est de plus en plus rapide.
Ça va de plus en plus
vite. Et c'est très difficile de faire des moratoires. Vous regardiez avec un peu une certaine fascination tout à l'heure des jeunes qui jouaient à Guitar Hero, oui, en disant si ça continue comme ça, on va avoir des générations de génies s'ils bossent autant
en science, par exemple.
Mais ça va venir là. C'est eux qui vont nous apporter la rupture et nous, on sera complètement largués, vous compris d'ailleurs, au bout d'un certain temps. Bon, alors, quels sont les progrès, enfin, la rupture, la chose qui pourrait ressembler le plus à, dans ce que vous voyez émerger, à le monde meilleur est peut-être en vue. Ça, c'est une pure provoque. Hein.
Je vais réduire considérablement le champ de la question.
Allons-y.
À l'astrophysique.
D'accord. Ah oui. Alors, je vois.
Il n'y a pas de monde meilleur. Enfin, il y a un monde meilleur en ce sens qu'on pense, on espère mieux comprendre l'univers. Donc, il y a en astrophysique des problèmes qui sont très fondamentaux et dont on n'a pas la queue de l'idée de la réponse, qui sont, alors, il ne faut peut-être pas en discuter maintenant complètement, mais qui sont l'énergie noire, matière. Nos représentants de l'univers actuellement, on sait beaucoup plus de choses sur l'univers maintenant qu'il y a un siècle. Beaucoup plus, mais en réalité, on a aussi des questions, on a bien plus de questions qu'on pouvait s'en poser il y a un siècle, parce qu'on a aussi beaucoup plus d'observables, on a aussi beaucoup plus d'éléments pour se poser des questions.
Puisque l'une de nos préoccupations, c'est celle de l'énergie, est-ce qu'il y a des sources d'énergie auxquelles on n'avait jamais songé, qu'on est en train simplement de discerner? Non, vous avez parlé d'énergie noire.
Alors, oui, ça, l'énergie noire, c'est autre chose. C'est le, quelque chose qu'on appelle énergie noire. Donc on a mis un nom sur une
d'accord.
chose.
Et mais puis c'est pas
on a l'impression, on a l'impression qu'on a compris la chose en la nommant, mais en fait pas
d'accord.
du tout.
Bon.
C'est une forme d'énergie, mais qui serait, pense-t-on, à la source de l'accélération de l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion, on le sait, depuis disons les années 30, 1930, et depuis les années 95, il semble que cette accélération. On pense que cette accélération que cette expansion est en accélération, est accélérée. C'est pas qu'elle s'est accélérée en 95, c'est qu'en 95 on a eu des indices observationnels. Voilà. Bon, et donc du coup, il faut invoquer quelque chose pour ça, mais pour l'instant, ça fait beaucoup plus office de rustine que de théorie fondamentale qu'il y a derrière. Donc,
d'accord.
si on peut remplacer la rustine par quelque chose qui tienne mieux la route, on aura d'une certaine
façon
fait un progrès. Le progrès, il est déjà dans le fait. Quelque chose qui nous échappait avant semble maintenant être un fait observationnellement reconnu par la population des astrophysiciens, alors qu'avant c'était une chose qu'on ignorait totalement. Maintenant, il faut en rendre compte, et ça, il y a encore du travail.
D'accord. Alors, même question à vous trois qui n'avez pas répondu à cette question, c'est qu'est-ce qui vous semble, en tant que rupture technologique, scientifique, que vous discernez, dont vous discernez la montée, de nature éventuellement à vous faire dire oui, le monde, il y a un monde meilleur quelque part qui peut peut-être, ou des éléments d'amélioration substantielle. Jean-Michel Beignet.
Moi, je ne dirais pas que je me prononcerai pas sur le côté meilleur ou pas, mais en tout cas, éléments de rupture.
Les robots.
Éléments de rupture, précisément, les robots, les technologies d'information et de communication d'une manière générale qui sont en train de nous fabriquer des objets dits intelligents. La multiplication des objets intelligents qui va tenir au perfectionnement de la maîtrise des puces RFID, le fait que nous puissions prévoir sans risque de nous tromper qu'à court terme nous serons entourés de capteurs et d'émetteurs et que nous aurons un environnement de machines qui communiqueront entre elles sur notre dos.
Sur notre dos, mais à notre profit. Pas toujours.
Allez savoir, moi je vois pas quel sera le profit, sinon que vous serez un peu mieux surveillé, effectivement, que vous ne risquerez rien.
On encourra peut-être moins de risques au volant d'une voiture, par exemple.
C'est votre voiture qui décidera, effectivement.
Oui. Bon, écoutez. De freiner alors que vous regardiez ailleurs.
Oui, vous aurez perdu le plaisir de conduire, ça c'est sûr. Bon, je pense que c'est là que va se situer la rupture. Alors évidemment, quelquefois, ça prend des formes un peu emphatiques. Et vous avez des gens qui vous disent que la rupture, c'est pour 2030. L'intelligence artificielle va triompher en 2030, c'est-à-dire une intelligence non biologique, résolument non biologique, et qui relèguera le biologique dans la préhistoire. Vous conserverez sans doute votre intelligence incarnée, votre viande, vous la conserverez, mais vous ne serez plus dans la course. Et cette intelligence non biologique, c'est vraiment la rupture emblématique, parce que, de fait, ça voudra dire que les progrès ne passeront plus par vous. C'est plus vous qui serez, c'est plus nous qui serons à l'origine des progrès.
J'aurai même une mémoire qui pourra se vider ou se télécharger.
Écoutez, vous savez, le spectre le plus grand en matière d'utopie, c'est ce qu'on appelle l'uploading. L'uploading, c'est-à-dire la possibilité de télécharger le contenu du cerveau sur des puces de silicium ou d'autres, qui vous permettrait évidemment de sauvegarder le contenu de votre cerveau et par conséquent votre esprit, parce que dans cette problématique-là, on ne distingue pas le cerveau et l'esprit. Et du coup, vous pourrez vous immortaliser, puisque vous pourrez implémenter le contenu de votre cerveau sur quantité de supports, des supports corporels si vous avez envie d'endosser la forme d'un humain, mais des supports matériels si...
En deux mots, est-ce que le post-humain, finalement, va supprimer cette question sur le monde meilleur ?
Le post-humain, on peut l'entendre au moins dans deux sens. Je ne veux pas être trop bavard. Soit par post-humain, vous entendez une humanité élargie, une humanité
augmentée,
mais aussi élargie à d'autres. Une humanité qui comporterait aussi des clones, des cyborgs, des robots androïdes, des animaux, etc. Bon, prise en compte d'une humanité vraiment en un sens élargi. Et là, on peut dire que c'est pas terrifiant. Que de s'élargir à cela. Mais le post-humain, ça peut aussi s'entendre dans un sens beaucoup plus radical,
constriction
à savoir
totale.
L'avènement d'une espèce nouvelle, inédite, qui relèguera l'espèce humaine dans une manière de préhistoire et conduira cette espèce humaine à son propre exténuement.
Charles.
C'est ce que Werner Vinge appelle la singularité, enfin le moment où une intelligence artificielle se développe d'elle-même à une vitesse telle qu'elle nous laisse derrière. Alors, sur ce point précis, avant de devenir au moins deux autres, je dirais qu'en ce qui me concerne, pour avoir un peu potassé mes parents professionnels la question, je ne crois absolument pas à l'intelligence artificielle. On m'aurait posé la question il y a 20 ans, en me demandant est-ce que, dans quel ordre de possibilités mettez-vous la machine à voyager dans le temps et l'intelligence artificielle, j'aurais répondu comme tout le monde, l'intelligence artificielle dans très bientôt et la machine à voyager dans le temps en très longtemps ou jamais. Et ben maintenant, après avoir bien étudié la question et consulté pas mal d'experts, je suis convaincu que la machine à voyager dans le temps sera fabriquée avant la moindre intelligence artificielle.
Quel est l'argument quel est l'argument dirimant sur l'intelligence artificielle?
Alors, sur le fait que quant au fond de l'intelligence artificielle, je ne parle pas de quelques exploits mineurs et spectaculaires, mais sans grand intérêt, en 50 ans, nous n'avons pas avancé d'un iota. Alors, on pourrait rentrer dans des détails techniques, mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc, nous ne savons pas ce que c'est que l'intelligence, nous ne savons pas la programmer, nous ne savons même pas s'il y a un langage de programmation dans le cerveau, nous ne savons strictement rien sur la question. Donc, prévoir
donc,
pour 2030, 2005, pour allez, l'instant.
D'accord.
Alors, cela dit, on pourrait rentrer dans le détail de toutes sortes de progrès considérables qui ont été faits, les réseaux neuronaux, etc. Mais ça ne répond en aucune manière à son intelligence artificielle. Alors, si vous me demandez quels sont les domaines, non pas qui iront vers un monde meilleur, mais où se passera des choses certainement très importantes dans l'avenir et positives, bon, d'abord, il y a tout le champ de la biologie, en particulier de la biogénétique. Il y a un nombre effrayant de maladies épouvantables que je pense on saura corriger, que non seulement on saura corriger chez ceux qui en souffrent, mais qu'on saura corriger dans leur génome, c'est-à-dire sur leurs descendants, ce qui pose des problèmes éthiques très fondamentaux. Bon, il y a eu des tas de colloques et de réflexions là-dessus. Le deuxième domaine qui m'est plus proche, c'est celui de l'économie, ou plutôt de la socio-économie. Nous avons fait, au cours du siècle qui vient de s'écouler, des progrès considérables dans ce domaine, même s'il y a énormément de bêtises ont été commises, mais nous avons fait des progrès considérables. Et par exemple, nous avons su, dans la crise qui n'est pas terminée actuelle, éviter les erreurs effroyables qui ont été commises en 1923 à propos de l'inflation allemande, en 1929 à propos de la grande crise économique, etc. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous savons à peu près bien, ça a été dit par des gens très éminents, je pense à René Thom, pourquoi la récente crise financière a éclaté. Bon, elle a éclaté bien qu'on ait su, dès avant qu'elle éclate, quelles étaient les conditions de son éclatement. Donc théoriquement, on aurait pu, on en savait assez,
pour pouvoir la bloquer,
l'empêcher. Alors, je conviens en disant qu'il y a un domaine qui me paraît très important et qui est exagérément négligé, qui n'est pas à proprement parler scientifique, mais c'est celui de la prospective, domaine dans lequel je crois que, d'abord, la prospective vous indique une chose, c'est qu'il y a les tendances lourdes hein, qui correspondent au progrès, comme ça. Bon, mais il y a une chose très très importante et qu'on ne sait pas prévoir et encore moins bien manipuler, manœuvrer, contrôler, maîtriser, ce sont les ruptures, thème que M. Besnier a invoqué plusieurs fois, enfin, toi aussi. Les ruptures, c'est très important. Alors, la prospective, c'est une réflexion qui n'appelle pas nécessairement un moratoire ou un principe de précaution, que je ne crois en aucune manière, parce que précaution contre quoi, enfin, oui, etc. Mais c'est une réflexion sur le qu'est-ce qui se passerait si, surtout quand le phénomène est très improbable, mais si il se produit, ses conséquences sont très considérables. Bon. La prospective existe, ou la futurologie n'est pas exactement ça dans le monde anglo-saxon, on parle plutôt de forecasting, mais elle a eu une assez grande importance en France et en Europe en général dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une poignée de gens qui vieillissent d'ailleurs à la représenter, enfin, mon ami Hugues de Jouvenel avec son excellente revue Futurible. Oui. Et là, il y a une lacune, il y a un problème. Je dirais que politiquement, il y a un problème parce qu'on a pu espérer un temps que le commissariat au plan deviendrait un commissariat de la prospective, un organe non pas de décision mais d'exploration de l'avenir en faisant un think tank avec des moyens considérables. Chaque fois, ça a été renvoyé aux oubliettes. Parce que les politiques de tous bords pensent qu'ils connaissent mieux l'avenir.
Oui, cela dit, il y a quelques esprits assez éminents qui se penchent sur la question encore. Attali, est-ce que vous le rangez chez les prospectivistes ?
Excusez-moi, je le connais, j'ai eu l'occasion de l'entendre. Ne parlons pas ici d'éminence.
J'ai compris. Très bien, mais écoutez...
Sauf dans la prétention.
Bon, eh bien, écoutez, fallait l'entendre, ça. Bon, en tous les cas, merci de ce que vous avez dit, Patrick.
J'ai plus que quelques secondes, mais je crois que je vais être moins précis que ça, en fait. Pour moi, pour arriver à l'utopie dont parlait Gérard Klein et au monde meilleur, je crois qu'il faut revenir aux sources du genre et voir que cette utopie, en fait, elle est toujours vers l'ailleurs, en fait. Il faut recréer ce désir d'ailleurs, et c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est-à-dire que l'ailleurs, ça a été une île utopique, justement, au XVIe siècle. Ça a été le futur, en fait, à un certain moment. Et ce futur, les objets du futur au XXe siècle nous ont été amenés comme des objets providentiels dans la société capitaliste pour transformer notre environnement présent. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait... Au contraire, peut-être de Gérard Klein, il faudrait arrêter de se projeter toujours dans le futur et de s'imaginer que le meilleur des mondes, il est là-bas, mais que transformer notre propre présent, en fait.
C'est le demain ici, en fait.
Voilà, exactement.
Plutôt qu'ailleurs et demain.
Donc il ne faudrait pas, cette rupture, il ne faudrait pas l'appeler de nos voeux pour après-demain.
D'accord. Toutefois, Roland Lehoucq, ici, c'est aussi l'ensemble du cosmos, si on vous suit bien.
Pour l'astrophysique... on est ici et maintenant tout le temps.
Tout le temps.
Parce que les échelles d'espace que nous sommes capables d'explorer physiquement en nous déplaçant, nous, même des robots, c'est des échelles d'espace qui sont ridiculissimes en comparaison des échelles cosmiques. Et les échelles de temps que l'humanité est capable d'appréhender par un seul cerveau, c'est-à-dire en gros votre durée de vie humaine, c'est mettons un siècle, c'est encore une fois ridiculissime en regard des échelles de temps cosmiques. Donc pour l'astrophysicien, et c'est ça toute la difficulté du travail de l'astrophysicien, c'est que vous regardez l'univers ici et maintenant. Et de cet ici et maintenant, vous devez raconter tout. C'est comme si là, en prenant une unique photo de cette salle, je devais raconter d'où vous venez, où vous allez, votre vie, tout, à partir de cette unique photo prise ici et maintenant, sous cet angle-là, à cet instant-là. Donc l'astrophysique, c'est difficile pour ça. C'est ça aussi qui la rend passionnante.
C'est très beau.
Mais nous, on est ici et maintenant. Ça, il n'y a pas de...
Je vous sens aucun d'entre vous pessimiste. Parce qu'au fond, c'était ça un peu. C'était ou le pire ou le meilleur. Je vous sens très optimiste. Jean-Michel Bensier.
J'ai un ami qui aime bien répéter que la situation est désespérée, mais pas grave.
D'accord.
Voilà.
D'accord. En fait, je suis pas il y en a d'autres qui disent à l'inverse qu'elle est grave, mais pas désespérée. Il faut bien souligner que c'est le contraire. Hein.
Oui, non, moi, je ne sais pas si on m'a... Je n'ai pas été posé sur la partie pessimiste ou optimiste.
Votre physionomie plutôt, est rayonnante oui, ça, dans ce ici et maintenant que vous observez.
Oui, mais en fait, en même temps... Bon, il y a le futur proche de l'humanité, il y a beaucoup de questions très graves qui se posent et tout n'est pas joué, mais voilà, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire qu'avec, comme dit Spider-Man, ou le père de Spider-Man, avec les grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. On a les grands pouvoirs, on en aura d'autant plus grands encore peut-être bientôt. On n'a pas encore conscience des grandes responsabilités que nous avons.
Alors prenons-en conscience.
Pour les suivants.
Vous semblez si peu pessimiste que vous voulez régler absolument un certain nombre de comptes très nettement, Gérard Klein. Et c'est bien.
Je ne dis pas ça. Je dis de l'avenir qu'il est inquiétant, mais l'avenir a toujours été inquiétant. Et nous avons peut-être plus de moyens d'arranger les choses que nous n'avons jamais eues dans l'histoire de notre espèce. Aussi, éventuellement, les abîmer.
D'accord. Alors, prenons garde à ce que nous faisons.
Je crois que nous avons été conditionnés en tant qu'êtres humains à espérer, à croire que nos technologies nos compétences, en fait, vont nous sortir d'affaires. Et j'espère que ce conditionnement nous donnera raison, en fait, en quelque sorte.
Merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir. Je suis désolé, j'ai mangé tout le temps qui m'était consacré. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, oui. Au revoir.